بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شفاعون الإسلام ce soir nous avons complété le 10e juz, le 10e sifara. Et donc, comme on avait dit, à partir de demain, inshallah, la salat al-tarawih sera moins longue, sachant que dès demain, on va faire un juz par jour, un sifara par jour. Donc, il y aura un quart de sifara en moins à lire. La salat al-tarawih se terminera un peu plus tôt. Alors, dans la surat al-tawba qu'on a lu aujourd'hui, inshallah, et dans le dernier quart du 9e sifara, qala al-mala'u, il y a tellement d'histoires, il y a tellement d'événements qui ont été cités par Allah subhanahu wa ta'ala, il est impossible de tout raconter. Il y a l'histoire des musulmans lors de la bataille de Badr, il y a l'histoire des musulmans lors de la bataille de Hunayn, il y a également le comportement des hypocrites, des munafiqines, et le comportement de Ka'b bin Malik radiallahu anhu dans cette bataille, lorsqu'ils ne se sont pas joints à l'armée des musulmans, avec tout l'enseignement qu'il y a. Il y a également la description des croyants, la description des hypocrites, al-munafiquna wal-munafiqat. Donc, tellement d'enseignements dans ces sourates, dans ce sourate, surat al-Tawbah, et ce qu'on a lu ce soir, on retiendra un verset qui mérite toute notre attention. C'est wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit: et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Ce verset stipule qu'Allah subhanahu wa ta'ala détient le cœur de chaque être humain entre ses mains. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu ce verset, une fois, histoire de Anas bin Malik radiallahu anhu, il dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lisait ce doigt, il le répétait très souvent: ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik ou ala ta'atik, c'est possible, mais dans ce verset ala dinik, il dit que oh, celui qui tient les cœurs, celui qui peut faire tourner les cœurs, thabbit qalbi, garde mon cœur dans ta religion. Garde mon cœur ferme dans ta religion. Alors, Anas bin Malik a été interpellé par ce doua, sachant que le prophète sallam le répétait. Faqulna ya Rasulallah, amanna bika wa bima ji'ta bihi, fa hal takhafu alayna. Dieu, prophète d'Allah, on a porté iman en Allah, en son prophète, et tout ce que tu nous as enseigné. Est-ce que tu as une crainte? Le sahaba ne comprend pas. Ils sont arrivés à une phase de pratique de la religion qui est telle qu'ils n'ont pas le moindre doute sur le iman ou sur les bonnes actions. Mais malgré ça, ils entendent le prophète d'Allah, alayhi salatu wasalam, demander à Allah: oh Allah, gardez notre cœur sur le droit chemin, gardez notre cœur sur la droiture. Et le sahaba dit: pourquoi ce doua alors qu'on est déjà dans le droit chemin? C'est la même chose, la même question qu'on peut se poser lorsqu'on lit ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina as-sirat al-mustaqim, ça veut dire: oh Allah, guide-nous vers le droit chemin. On peut se dire: mais pourquoi demander à chaque fois de surat al-Fatiha, oh Allah, guide-nous vers le droit chemin? Parce que après, il y a quoi la suite? Surat al-ladina an'amta alayhim. Il y a la description du droit chemin. C'est quoi le droit chemin? Et ensuite, il y a par opposition à ghayril maghdoubi alayhim wala ad-dallin. Par opposition à tel religion qui s'est égarée et à telle autre religion qui a encouru la colère d'Allah. Donc on voit bien, il y a le droit chemin et puis il y a ceux qui sont dans le mauvais chemin. Alors on peut se dire, pourquoi demander à Allah de nous guider vers le droit chemin? La question qu'on peut se poser. Et là, les ulama, les mufassirs disent que lorsqu'on demande à Allah, ihdina as-sirat al-mustaqim, on demande à Allah azza wa jal de nous garder sur le droit chemin. De nous garder sur le droit chemin jusqu'à la mort. Jusqu'à ce qu'on quitte ce dunya. Si quelqu'un quitte ce dunya avec la foi, Inch'Allah, il soit ressuscité avec la foi. Alors que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous décrit parfois des scènes effrayantes, des paroles qui interpellent, qui doivent interpeller chaque mu'min et qui doivent faire comprendre à chaque musulman qu'en aucun cas on ne doit, comme on dit, l'expression, se reposer sur ses lauriers. En aucun cas on doit se dire que moi je suis musulman, descendant d'une grande famille, d'une grande génération de musulmans, je suis même, allez on va dire, je suis hafid al-Qur'an, j'ai telle qualité, mon papa était ça, mon grand-père était fundi, etc. Donc moi je suis un bon musulman. C'est comme si que certains, hein, ils ont le tampon, le visa du paradis déjà sur leur passeport. Et c'est comme si qu'ils sont sûrs, ils ont déjà leur place là-haut dans le paradis. Alors que wallahi, mes chers frères, personne ne sait. Al-amal ou bil-khawatim. Les actions, c'est vraiment à la fin qu'on voit. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit que dès maintenant, sur la porte de l'enfer, c'est déjà écrit le nom des gens de l'enfer. Et le prophète nous dit dans un hadith qu'il y a des gens, et ça nous interpelle, il y a des gens qui durant toute leur vie accomplissent de bonnes actions. Mais avant de mourir, ils font des actions des gens de l'enfer et ils finissent avec les gens de l'enfer. Quelqu'un qui durant toute sa vie est resté dans le droit chemin, mais avant de mourir, la personne dévie. Et ça existe, mes chers frères. D'où l'importance de Hidina Sirat al-Mustaqim, d'où l'importance de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, et il ne l'a pas dit une fois dans sa vie, il le disait, le répétait, et il l'a enseigné aux sahaba, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala din, gardez mon cœur sur le droit chemin, et pour toute la umma, que chaque musulman, il doit demander ce droit. Parce que mes chers frères, tout comme il y a des gens, il y a des gens qui sont dans le mauvais chemin, et quelques instants avant de mourir, Allah guide leur cœur. Ça aussi, ça existe. Ça aussi, ça existe. On a une fois des gens de métropole qui nous racontent cette histoire. On a déjà dit plusieurs fois dans différentes assemblées, une vieille personne, un monsieur, un français de souche, un gaulois, on va dire, hein, il était dans une ville particulière, Saint-Étienne. Vous connaissez Saint-Étienne, le chaudron et tout, d'accord? Il dit qu'un jour, il voit les musulmans de la mosquée et tout, et puis il dit avec ces musulmans, je veux entrer dans votre religion, je veux devenir comme vous, un vieux monsieur. Et ils sont d'accord, il prend son roussel, il prend son bain, il lit la shahada, et c'est l'heure de la prière. Il va faire la première prière de sa vie. Il est mort dans la salah. Il est mort dans la salah, mes chers frères. Allahu Akbar. Quelqu'un qui a dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tout ce qu'il a pu faire comme péché sont pardonnés. Quelqu'un qui rentre dans la religion, qui lit la ilaha illallah, qui devient musulman, même s'il a fait mille et une bêtises, même si c'était le plus grand tyran, le plus injuste, Allah Ta'ala est tellement rafour, rahim, tellement clément, miséricordieux, pardonneur, qu'Allah est prêt à tout pardonner. Et il est mort dans sa salah, c'est-à-dire, il a vécu 15 ou 20 minutes, allez j'exagère, il a vécu une ou deux heures de islam. Mais il n'a pas fait un péché. Il s'est converti dans la masjid, il a pris son bien, et il est resté à la masjid, il a fait la salah, il est mort. Inch'Allah, le Jannah. Inch'Allah, il fait partie des gens du paradis. Mais ça c'est des cas merveilleux, magnifiques. Mais wallahu musta'an, malheureusement l'autre cas aussi existe, comme le hadith le prouve, que des gens qui durant toute leur vie, on le répète, ils font les actions des gens du paradis, mais avant de mourir ils font les actions des gens de l'enfer et ils finissent avec les gens de l'enfer. Qu'Allah nous protège. Le prophète nous enseigne également que parfois un être humain, un musulman peut dire une parole qui le précipite dans les abîmes, dans les abysses de l'enfer. Une parole qui a tellement déplu Allah qu'Allah décide d'éloigner, de repousser, de refouler cette personne. Ça aussi c'est possible. Il n'y a rien de pire parmi les paroles, hein, parmi les pires paroles qu'un être humain puisse prononcer, c'est des paroles qui ont pour but d'humilier quelqu'un par rapport à ses origines, par rapport à sa couleur, par rapport à sa race, ou alors de monter les gens les uns contre les autres en les rattachant à leurs origines. Et ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam détestait. Une fois, il y avait un petit conflit entre sahaba. Il y a un qui appelait Ya al muhajirin, et l'autre qui a dit Ya al ansar. Il y a un qui a dit Oh les muhajir, vous dire, venez m'aider. Et l'autre a dit Les ansar. Parce que c'était les muhajir et les ansar. Le prophète était tellement en colère, très en colère. Et le prophète a vivement réprimandé ces gens-là. Alors que le terme muhajir et ansar se trouve dans le Coran et se trouve dans les hadiths. C'est Allah qui les a qualifiés de muhajir, les qualifiés d'ansar. Mais malgré ça, il ne faut jamais semer un trouble, une fitna dans une communauté par rapport aux origines, aux sources, au rattachement. Ça, c'est interdit. Alors qu'on entend parfois des gens, hein, qui disent que oui, ça c'est un malgache, ça c'est un mauricien, ça c'est un comore, ça c'est un machin. Na'oud billah, il n'y a rien de plus vilain que ça. Et quelqu'un, il ne s'imagine pas. Il croit qu'il est devant Allah, il fait sa salah, il a tout ce qu'il faut, la panoplie du musulman. Parfois, une parole comme ça, une vilaine parole qui sort de sa bouche sans réfléchir, c'est ça qui cause sa perte. Et quand est-ce qu'il va savoir que c'est cette parole qui a causé sa peine? Malheureusement, ce n'est que là-haut. C'est-à-dire, c'est quand c'est trop tard. Quand ce sera trop tard, c'est-à-dire là-haut, là, la personne se rend compte que c'est par rapport à telle parole qu'Allah Ta'ala l'a précipité dans l'enfer. Donc, c'est les exemples qu'on vient de donner, ça fait partie des paroles qu'on, parfois, on entend. Mais ça, il faut bannir complètement. Parce qu'Allah Ta'ala dit au Coran, « La yayuha alladina amanu la yaskhar qawmu min qawm » Non, c'est pas ça. Un autre verset qui dit « Ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li » Et ta'arafu. Allah Ta'ala fait des... Allah Ta'ala aurait pu créer toute la race humaine blanc, aux yeux bleus et blonds. Ou Allah Ta'ala aurait pu créer toute la race humaine noire ou asiatique. Mais Allah Ta'ala a décidé qu'il y ait des gens de couleur blanc, des Africains et asiatiques. Les trois races. L'objectif, c'est quoi, Ali? Ta'arafu. Pour que les gens se fréquentent, pour que les gens se comprennent mutuellement et que chacun s'enrichit en fréquentant l'autre personne. Donc, on a voulu citer un exemple de parole détestable, parce que c'est quelque chose qui est un peu dans le contexte, pour qu'on comprenne qu'on doit faire attention. On ne doit pas se baser uniquement sur nos bonnes actions, sur nos origines, sur le nombre d'années qu'on a vécu dans l'islam. Il faut être toujours vigilant sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit, sur le moindre fait et geste. On doit faire attention et demander toujours protection. Allah, que jamais on accomplit une action qui provoque sa colère et qu'Allah Ta'ala soit mécontent de nous. Donc, si on peut retenir ce doigt, il y a le doigt qu'on a dit là, subhanallah, ya muqallib al-qulub, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, d'accord? Et il y avait un autre hadith également, subhanallah. Oui, quand on parlait des personnes qui, durant toute leur vie, ou alors pendant longtemps, ils sont dans le droit chemin, vous n'avez pas déjà entendu parler de jeunes qui sont, mashallah, dans le droit chemin, depuis l'âge 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, vraiment, alhamdulillah, qui sont loin de tous les péchés. Et on est admiratif de ces jeunes parfois. Et puis, il se passe quelque chose dans sa vie. Très souvent, qu'est-ce qui se passe? Ce jeune-là tombe amoureux. Il tombe amoureux d'une fille, éperdument amoureux, et pour cette fille-là, il est prêt à tout délaisser. Il est prêt à raser sa barbe, il est prêt à s'habiller de manière différente, il est prêt à arrêter de fréquenter la masjid, à aller avec cette fille dans les boîtes de nuit, à boire, à l'accompagner, etc., etc., parce qu'il est éperdument amoureux de cette fille. Et ça, c'est des cas qu'on connaît, c'est des cas qui existent, mais pour qu'on comprenne que rien n'est acquis. Même quand on voit un jeune dans le droit chemin, demandez au Allah, gardez-le dans le droit chemin. Sinon, on est père de famille, on voit notre garçon, notre enfant qui, mashallah, est dans le droit chemin. Il faut l'encourager. Et il faut en permanence faire le rappel à la maison. En permanence. Parce que la fitna qui nous entoure, c'est un tel degré, vous n'imaginez pas. On ne peut pas imaginer ce qui se passe dans les collèges, dans les lycées. Et vraiment, quand on envoie nos enfants au collège, au lycée, l'enseignement, c'est important, il faut qu'ils aient une situation de leur vie. Mais ils sont, wallahi l'azim, ils sont en danger depuis le plus jeune âge, depuis les CM, les cours préparatoires élémentaires, CM1, encore ça va, à partir de CM2. Lorsqu'ils sont en transition vers le collège, là, il y a différents problèmes qui interviennent. Et il faut que les parents soient toujours présents pour encadrer les enfants. Et comme on a dit le mot fitna, il y a le verset qui vient juste après. Yamin, si notre hafez nous permet, on peut, 2 minutes encore. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Allah Ta'ala met en garde, attention, parce que quand Allah Ta'ala envoie son châtiment, ça ne touche pas uniquement les gens qui ont fait du tort. Il est possible que dans une communauté, il y a des gens qui ont fait des erreurs, mais qu'Allah Ta'ala décide de punir tout le monde. Dans quel cas? Lorsqu'il y a des gens qui font des erreurs, des péchés, et qu'on les laisse faire le péché. Et ça, très souvent, on est arrivé à une situation, à un stade dans notre communauté, une certaine mentalité qui dit que on est nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi, c'est là-haut. Là-haut, c'est nafsi-nafsi. Mais ici, on doit avoir le fikar de la umma. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que, hadith de Adi ibn Umayra, Samih du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, Inna Allah azza wa jalla yu'adhib al-amma bi'amali al-khassa. حتى يروا المنكر بين ظهرانهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكروه فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاص والعام. Allah Ta'ala ne punit pas la totalité d'une population à cause des péchés d'une minorité, sauf si cette majorité, ces musulmans, voient la minorité faire des péchés et qu'ils ne disent rien, ils les laissent faire comme si de rien n'était, comme si ce n'était pas interdit. Alors Allah Ta'ala est tellement mécontent puisque lorsqu'Allah Ta'ala envoie sa colère, ça touche les pécheurs, mais ça touche également les gens qui sont autour. Et on terminera par ce récit. Ça, c'est un électrochoc, ça. Parce que Hudhayfa, radiallahu anhu, il s'adresse aux tabi'in. Les tabi'in, c'est qui? C'est quoi un tabi'in, sanaullah? Mu'iqili, hein? Ceux qui ont vu les sahaba. Donc, c'est quand même un grade. C'est la génération qui vient après les sahaba. Ils n'ont pas vu le prophète, mais ils ont vu Abu Bakr, Uthman, Umar, Uthman, Ali. D'accord? Regardez un sahaba qui fait des remontrances à un tabi'in. Et on n'est pas au niveau là. Sahaba tabi'in. Regardez, on va dire entre guillemets le causement que le sahaba il dit. Hudhayfa il dit, il était avec une assemblée de personnes. Il dit que, in kana rajulu, la yatakallam, on va dire en français, il dit à notre époque, le sahaba à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne disait une parole qui était tellement mauvaise que immédiatement cette personne devenait un hypocrite par rapport à cette parole. Alors que wa inni la asma'uha min ahadikum fil maq'ad al wahid 4 marrat. Alors que de cette assemblée, j'entends des gens qui disent ce genre de parole qui le répètent 4 fois et il n'y a personne qui le réprimande. Il n'y a personne qui le rappelle à l'ordre que oh mon frère, cette parole-là, elle va à l'encontre de la aqida. Cette parole-là, c'est une parole détestée par Allah. Donc il fait comprendre dans quelle situation on est. Sahaba qui réprimande un tabi'in. Alors, Wallah musta'an, ces sahaba voyaient notre niveau de vie, notre éloignement, j'allais dire notre pratique de la religion, notre éloignement de la religion, qu'est-ce qu'ils auraient dit? Et là, Hudhayfa dit, la ta'murunna bil ma'ruf, n'oubliez pas, il faut ordonner le bien et interdire le mal. D'accord? Ou alors Allah Ta'ala enverra un châtiment. Et lorsqu'Allah Ta'ala envoie son châtiment, le châtiment touche tout le monde. Et ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. Alors là, les gens pieux, les meilleurs parmi vous, vont faire doua, mais le doua ne seront même plus acceptés. Ça, c'est les conséquences de l'abandon de Amr bil Ma'ruf, le fait de ne plus ordonner le bien et de ne plus interdire le mal. Et à notre époque, au nom des libertés individuelles, de la liberté d'expression, etc., etc., on laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Beaucoup de gens parlent de l'islam sans le maîtriser. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de prendre un livre en français, de le feuilleter, de lire, pour qu'on devienne un savant. Et ils donnent des fatwas, et ils donnent leur opinion, ils donnent leur avis. Et puis il y en a même qui appellent, on sort du sujet, mais rapidement, il y en a même qui appellent à la relecture des textes. Na'oudhou billah. Ça c'est, on va droit dans le mur, droit dans le coufre. Ils veulent une relecture des textes plus adaptée à notre époque. C'est-à-dire, le tafsir, hein, les versets du Coran qui étaient les portes, c'est plus possible maintenant. Il faut les interpréter d'une autre façon par rapport à l'époque. Et ce courant-là existe aussi, mes chers frères. Donc, on doit faire très attention. Ce qu'on peut retenir de ce qu'on a dit aujourd'hui, premièrement, les cœurs sont dans les mains d'Allah. Et Allah, Ta'ala, il fait ce qu'il veut des cœurs des hommes. Donc, on doit demander à celui qui détient les cœurs dans les mains, oh Allah, garde mon cœur dans le droit chemin. Et deuxièmement, le verset qui dit attention, il faut ordonner le bien, interdire le mal. Autrement, si Allah punit, la punition d'Allah est générale. Et on doit faire le maximum pour protéger nos enfants, pour qu'ils restent dans le droit chemin. Tawfiqillah billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.